VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Ebola en République démocratique du Congo. L'introduction d'un deuxième vaccin anti-Ebola pour lutter contre l'épidémie de fièvre hémorragique a commencé ce jeudi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. L'utilisation du vaccin ciblera 50 000 personnes sur une période de 4 mois, selon MSF, Médecins sans frontières, l'ONG humanitaire responsable de sa mise en œuvre dans deux centres à Goma. Plus de 250 000 personnes ont déjà reçu la dose d'un premier vaccin depuis le début de l'épidémie dans la région en août 2018. L'introduction de ce deuxième vaccin a été précédée de nombreuses polémiques. En juillet, l'ancien ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga, avait démissionné en dénonçant ce qu'il avait appelé des acteurs qui ont fait preuve de manque d'éthique manifeste dans leur volonté d'introduire un deuxième vaccin. Une réduction sensible des cas de contamination à la maladie à virus Ebola a été observée ces dernières semaines par les autorités sanitaires congolaises. RDC toujours, la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, a qualifié hier d'inacceptable les discours de haine dans les médias visant la communauté tutsi congolaise des Banya Moulengue dans l'est du pays. Le point avec Eric Manirakiza.
Nous avons documenté le retour des discours de haine dans certains médias et sur les médias sociaux contre les populations congolaises Banyamulenge, a déclaré François Grignon, l'adjoint au chef de la MONUSCO en charge des opérations. Ces discours sont inacceptables et doivent être réprimés avec la plus grande fermeté. Nous condamnons cette violence et travaillerons avec le gouvernement pour que les responsables répondent de leurs actes devant la justice, a-t-il ajouté. La communauté Banyamulenge désigne des Tutsis congolais d'origine rwandaise, majoritairement éleveurs dans la province du Sud Kivu. Depuis mai, cette région des hauts plateaux de Fizi est prise dans une spirale de violence. Un notable Munyamulenge a été tué par des membres d'une communauté rivale en raison de conflits liés à la gestion des pâturages et des champs. Le responsable onusien a estimé que la situation a connu une détérioration significative ces dernières semaines. La MONUSCO a donc renforcé sa présence dans la région tout en invitant l'armée congolaise à déployer un renfort afin de reprendre rapidement le contrôle de la situation.
En Angola voisin, le principal parti d'opposition, l'UNITA, tient un congrès qui devra élire demain vendredi le nouveau chef de cette formation politique. Après 16 ans à la tête de l'UNITA, Isaias Samakuva se retire volontairement de ses fonctions. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint le député et candidat à la présidence du parti, Raoul Danda.
On a 7 candidats qui sont dans la course vers la présidence de l'UNITA. Cela démontre d'abord qu'il y a un niveau de démocratie acceptable, et en plus que, voilà, il y a vraiment des discussions qui se tiennent au sein du parti parce que il y a de la volonté de conduire le parti et puis il y a de l'intelligence, disons, de la part des uns et des autres pour pouvoir faire ce travail.
Est-ce que ça signifie que l'UNITA va changer d'orientation dans la manière de mener sa vision politique?
Ce n'est pas qu'il y aura changement en ce qui concerne le fond. C'est-à-dire, l'UNITA est basée sur 5 principes qu'on appelle principes de Mondai. Ce sont des principes qui ont été établis lors de la création de l'UNITA en 1966. Et ce sont des principes. Maintenant, la façon de conduire la chose, le dynamisme qu'on va y mettre, c'est ça la différence. On a eu un parti conduit par le Dr Savimbi avec son dynamisme, avec sa façon de mener les choses. On a après eu le président Samakuva pendant 16 ans. Il a mené le parti d'une autre façon. Il est vrai maintenant qu'il va avoir un autre président. Et moi aussi, je suis un des candidats. Celui qui va remporter les élections maintenant, bien sûr, qu'il va pouvoir faire une chose, atteindre le même objectif, mais suivre peut-être un chemin différent.
Quelle est la valeur ajoutée que vous comptez apporter si vous êtes porté à la tête de l'UNITA?
On a toujours accusé l'UNITA d'être un parti dont la direction vient toujours du sud de l'Angola, du centre-sud de l'Angola. On est 5 candidats. Moi, je suis le seul candidat, le premier candidat qui se présente venant d'une autre région. Moi, je suis du Kabinda. Moi, j'ai été vice-président du parti pendant 4 ans. Dans mon projet, il y a priorité absolue sur la question du genre. Pour moi, les femmes doivent être dans la direction du parti, dans toutes les structures du parti, au moins à 45%. Et je veux atteindre 50%, c'est ce que je veux. J'ai une attention spéciale vers la jeunesse, parce qu'il trouve que la jeunesse, c'est la continuité de notre parti. Les hommes meurent, l'organisation continue toujours, et il faut qu'on prépare les jeunes pour donc prendre cette tâche et pouvoir marcher d'une façon ferme dans la conduction du parti. Et puis, je vais regarder les ex-soldats. Il y a le protocole de Lusaka qu'on a signé avec le gouvernement. L'UNITA a accompli sa partie, mais il y a des choses que le gouvernement ne fait pas. Alors, il va falloir qu'on parle avec le gouvernement pour voir comment résoudre ces problèmes.
Raoul Danda, député et vice-président de l'UNITA en Angola.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, un parti d'opposition, le Front Patriotique pour le Renouveau, FPR, a été suspendu de toute activité pendant 3 mois pour avoir demandé la démission sans délai du président Roch Marc-Christian Kabore et du gouvernement. C'est ce qu'indique un arrêté ministériel mercredi. Dans une déclaration publiée le 3 novembre et dépeignant une situation nationale simplement devenue exécrable sur les plans économiques, social et sécuritaire avec le terrorisme qui avance à grands pas et met à nu l'incapacité des gouvernants à sécurité de la nation, le FPR avait demandé la démission sans délai du gouvernement actuel du Burkina Faso. Politique en Tunisie, Rached Ghannouchi, chef historique du parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives d'octobre, est maintenant président du Parlement. Il a été élu à ce poste mercredi, Bagasikora.
Rached Ghannouchi, âgé de 78 ans, a accédé hier à la présidence de l'Assemblée nationale avec 123 voix sur 217. C'est suite à un accord avec le parti libéral Kalbe Tounes de l'homme d'affaires Nabil Karoui, vaincu au second tour de la présidentielle du 13 octobre, qui avait pourtant tenté de se poser en rempart contre l'islamisme durant la campagne électorale. Son parti avait exclu avec véhémence jusqu'à la dernière minute tout accord avec la première force du Parlement. Ennahda avait quant à lui réussi à s'imposer en se présentant comme le fer de lance des idéaux de la révolution de 2011. Avec seulement un quart des sièges dans un parlement morcelé, ce parti doit cependant faire d'importantes concessions pour avoir une marge de manœuvre. L'élection de Ghannouchi à la tête du Parlement intervient 2 jours avant le délai pour que son parti annonce le nom d'un premier ministre qui aura la lourde tâche de former un gouvernement susceptible de convaincre la majorité des députés.
Politique aux Comores, archipel de l'océan Indien, le président comorien Azali Assoumani a exhorté l'opposition à participer aux élections législatives prévues début 2020. Scrutin que les opposants menacent de boycotter à moins que leurs exigences, notamment de transparence électorale, soient remplies. L'opposition comorienne a conditionné sa participation aux législatives de 2020 à plusieurs conditions, notamment le vote de la diaspora et la garantie d'un scrutin transparent, libre et démocratique. Pour le moment, le président Azali refuse publiquement de répondre à ces demandes. Actualité aux États-Unis maintenant, c'était hier, ici à Washington, la première journée des auditions publiques au Congrès américain pour déterminer si le président Donald Trump doit être mis en accusation dans l'affaire ukrainienne. Le point avec Abdourahman Dia.
Ancien militaire, William Taylor a ouvert les auditions publiques et télévisées aux côtés d'un autre diplomate de carrière, George Kent, haut responsable du département d'État spécialiste de l'Ukraine. Les deux témoins avaient déjà livré leur version à huis clos en octobre. M. Taylor a affirmé qu'un canal diplomatique irrégulier avait été mis en place avec l'Ukraine et que cette diplomatie parallèle était dirigée par Rudy Giuliani, avocat personnel du président Donald Trump. À la mi-août, il m'est apparu évident des efforts de Giuliani visant à poursuivre des intérêts allant à l'encontre des objectifs à long terme de la politique américaine en Ukraine, a renchéri M. Kent. Cette procédure est une campagne de calomnie, s'est insurgé le républicain David Nunes. Dénonçant une chasse aux sorcières, le président Trump a promis de prendre sa revanche dans les urnes en 2020. Une dizaine d'autres auditions sont prévues au Congrès d'ici le 20 novembre.
Et pour terminer, le président Donald Trump a reçu mercredi à la Maison-Blanche son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'exécutif américain a vanté à l'issue de leurs entretiens sa bonne entente avec le leader de la Turquie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.